Les enjeux internationaux avec Thierry Garcin aussi en studio. Bonjour Thierry.
Et bonjour Marc.
Et vous poursuivez aujourd'hui le dernier volet de votre semaine spéciale. Quelle recomposition au Moyen-Orient? Quels différents scénarios privilégiés? Votre invité, Bichara Kader.
Et voilà, d'ailleurs, on va même mettre un terme à cette semaine spéciale. Quelle recomposition au Moyen-Orient? Vous l'avez dit, Marc Moinchet. Alors, notre invité, Bichara Kader, professeur émérite à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tout de suite, il faut rappeler qu'il y a un certain nombre de scénarios qui peuvent être dessinés, mais le non-spécialiste est bien normal, précisément, de les esquisser. D'abord, est-ce qu'on peut prévoir dans le court terme? Est-ce que la situation sur le terrain n'est pas prioritaire? Est-ce qu'il faut attendre une clarification militaire? Et puis, quel lien possible entre tous ces mouvements radicaux, violents, de type islamiste? Et quantité d'autres questions. Donc déjà, quelle échéance pour vous, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut prévoir que dans le court terme, compte tenu des aléas?
Mais écoutez, il est très difficile de prévoir évidemment l'avenir dans le monde arabe, a fortiori, mais bon, la construction des scénarios me paraît très utile parce que ça sert surtout à réduire l'effet de surprise et préparer la décision politique. Cependant, prévoir les évolutions géopolitiques dans une région en convulsion comme le Moyen-Orient, c'est une tâche particulièrement ardue. Je vois néanmoins dans les années à venir un scénario qui me paraît probable. C'est un scénario d'implosion de certains États. Je mettrai dans ce cas le cas de la Syrie. Un scénario de fragmentation de certains autres. Je mettrai là le cas de l'Irak. Un scénario de fédéralisation de certains États, mais après une guerre civile, c'est le cas du Yémen et de la Libye, une restauration autoritaire dans certains autres États, c'est le cas de l'Égypte, la continuation de la gestion autoritaire, c'est le cas de le Maroc, mais l'Algérie, et éventuellement une démocratie balbutiante, c'est le cas de la Tunisie. Donc le monde arabe aujourd'hui se diversifie, les trajectoires se multiplient, il n'y a pas un scénario, mais c'est certainement le cas de la Syrie qui me paraît le plus inquiétant aujourd'hui.
Syrie-Irak, alors à vous écouter, on a l'impression quand même de grands risques de ce qu'on appellerait en Europe de balkanisation finalement.
Oui, il y a un grand risque parce que la violence est installée au cœur du printemps arabe et aujourd'hui vous avez l'émergence en Syrie, en Irak, mais maintenant aussi dans d'autres pays, d'acteurs non étatiques comme Daesh qui, à l'opposé d'Al-Qaïda, se territorialise, s'empare de territoires, les gère, soumet la population à sa loi et malgré une coalition internationale de plusieurs États qui bombardent par des drones, par des avions. Ce Daesh fait preuve d'une très grande résilience, même plus, c'est étant son emprise sur de nouveaux territoires, comme c'est le cas de la prise de Ramadi en Irak, de la prise de Palmyre en Syrie dernièrement. Et donc la situation me paraît tout à fait particulière. Ce sont des menaces inédites auxquelles tous les pays arabes font face aujourd'hui. Et naturellement, les perspectives d'un monde arabe démocratique, avec une démocratie consolidée, une participation de la société civile, est en train de s'éloigner au profit d'un monde arabe qui est plongé dans la convulsion. Ce sont des douleurs d'accouchement extrêmement difficiles, mais qui pourraient prendre bien une génération.
Alors, Bichara Kader, on va reparler de cette nébuleuse, justement, des mouvements terroristes que, apparemment, l'État islamique souhaite fédérer, d'une certaine façon. Mais, puisque vous parliez de la Syrie, est-ce qu'il y a un risque, une éventualité, que la Turquie intervienne militairement en Syrie? On en avait parlé récemment, ici même.
Écoutez, tout d'abord, en Syrie, il n'y a pas une guerre. C'est ce qui fait la complexité du cas syrien. Il n'y a pas une guerre, mais il y a 5 guerres qui se livrent simultanément. Il y a une guerre entre l'opposition et le pouvoir. Il y a une guerre au cœur même de l'opposition, entre les courants islamistes radicaux et les autres courants de l'opposition syrienne. Et une guerre indirecte par procuration entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, une guerre entre l'Occident et la Russie de Poutine, mais en même temps une guerre entre la Turquie et les Kurdes. Et il est clair qu'aujourd'hui les Turcs retiennent leur souffle, sont particulièrement inquiets du développement en Syrie, parce que ce qui se passe en Syrie est en train en fait a comme effet indirect le développement et la consolidation d'un irrédentisme kurde, d'un nationalisme kurde, pas simplement en Irak où les Kurdes ont déjà un quasi-État, mais aujourd'hui les Kurdes de Syrie également, soutenus par le frère irakien, reviennent un peu à la surface. Et cela inquiète particulièrement les Turcs à telle enseigne qu'on se demande des fois si l'ennemi prioritaire de la Turquie ce sont les Kurdes et non pas l'État islamique, comme beaucoup d'experts arabes le soupçonnent. Et donc, il n'est pas impossible que la Turquie essaye d'imposer une sorte de zone tampon entre la Turquie et la Syrie pour se protéger éventuellement des rebondissements et des rejaillissements de la crise syrienne sur son propre territoire. Car la Turquie, comme la Syrie, est également une mosaïque ethnique et religieuse, et ce qui se passe en Syrie pourrait très bien demain se passer en Turquie, et c'est un cauchemar pour les Turcs.
On rappelle d'ailleurs, Bichar Akader, qu'il y a environ entre 15 et 18 millions de Kurdes en Turquie, bien territorialisés sur le plateau anatolien, mais aussi nombreux sur la partie européenne de la Turquie, à Istanbul, qui est là, évidemment la capitale économique.
Oui, bien sûr, et que cette question kurde est là, lancinante, obsédante, depuis la fin de la Première Guerre mondiale. N'oublions pas qu'au départ, on avait promis aux Kurdes un État indépendant, mais cela ne s'est jamais matérialisé, cet État n'a jamais vu le jour. Atatürk, évidemment, a tout bonnement restauré de manière autoritaire la Turquie moderne, et les Kurdes ont été les grands perdants des partages coloniaux de la Première Guerre mondiale. Ce qui se passe aujourd'hui dans la région non seulement remet en question les États constitués qui sont aujourd'hui fragilisés, c'est le cas de la Syrie, c'est le cas de l'Irak, mais remet en question également les équilibres régionaux hérités de la Première Guerre mondiale. C'est pour ça que véritablement le Moyen-Orient est entré dans une phase, dans une ère nouvelle. Et il y aura dans 10 ans, dans 15 ans, probablement un Moyen-Orient tout à fait différent, avec des configurations géographiques différentes.
Est-ce qu'il faut, Bichar Akader, est-ce qu'il faut attendre une clarification militaire? Parce que on dit toujours, avec d'ailleurs justesse, que la solution ne peut être que politique. Là, il y a un embrouillamini incroyable sur le terrain. Mais est-ce qu'il faut attendre que des forces se dégagent pour essayer de réunir, pour discuter, essayer de réunir des partenaires qui pour l'instant s'entretuent?
Mais écoutez, la coalition soi-disant anti-djihadiste contre Daesh qui s'est mise en place, chapeautée par les États-Unis, dans laquelle participent de nombreux États arabes, n'est pas aujourd'hui très crédible, pour dire la vérité, parce qu'elle ne peut pas remporter une victoire décisive avec les seules frappes aériennes. Elle ne peut pas juguler Daesh, qui étend aujourd'hui son territoire, le contrôle sur de vastes portions de territoire en Irak comme en Syrie, et s'étend d'ailleurs, y compris dans le nord, en Afrique du Nord. Et donc, comme il n'y a pas de résultat probant, il n'est pas impensable de faire le scénario d'un délitement de cette coalition à cause précisément de l'imprécision des objectifs communs et d'une définition précise de la mission.
Voilà.
Et ainsi, par exemple, l'Arabie Saoudite, bien sûr, participe à cette coalition, mais aujourd'hui, l'Arabie Saoudite lance elle-même sa propre opération militaire au Yémen, et elle ne peut pas agir sur les deux fronts. Donc, c'est une participation plutôt symbolique. la participation irakienne, bien, on voit bien l'état de délabrement de l'état de l'armée irakienne qui aujourd'hui déguerpit de certaines villes à l'approche même des islamistes, oui, de Daesh,
même
qui ont livré bataille en laissant derrière eux des munitions et même des armes lourdes dont se saisit l'État islamique. Mais... Le seul pays véritablement impliqué, c'est la Jordanie, mais la Jordanie n'a pas beaucoup de moyens. Vous avez bien vu lorsque un pilote jordanien a été
abattu,
capturé par l'État islamique, comment ils l'ont brûlé devant les caméras. Et cette médiatisation a évidemment refroidi la Jordanie. Donc, sans une intervention terrestre dans laquelle les acteurs régionaux devraient jouer un rôle important, je ne vois pas comment on peut défaire Daesh et éventuellement restaurer la dignité de certains États qui aujourd'hui déploient leur incompétence sur tous les fronts.
Voilà, on avait parlé d'ailleurs avant-hier de la faiblesse de la coalition et de ses contradictions. Alors, dernière question, Bichar Akader, peut-être. On voit que, par exemple, l'État islamique se fait même rabrouer, tenser par les talibans afghans qui leur disent à l'État islamique de quoi je me mêle. Et puisqu'il y a une compétition entre le califat, évidemment, de l'État islamique et l'émirat des talibans, on voit l'État islamique au Sinaï, on le voit vouloir pousser des avantages dans le Caucase, j'ai entendu sur RFI Boko Haram, ce n'est pas l'État islamique mais ce sont des islamistes, 150 morts au Nigeria avec des incendies de villages particulièrement atroces. C'est une nébuleuse de plus en plus complexe, on a l'impression qu'elle a tendance à, pour l'avenir, à vouloir se développer sur des théâtres qui ne sont plus simplement arabes.
Oui, bien sûr. Là, il faut poser la question, évidemment, au-delà des ambitions affichées, si les ambitions s'adossent sur des ressources en hommes et en matériel et en finances suffisantes pour mener à bien leur croisade macabre d'extension du radicalisme religieux. Je vous rappelle que, il me semble que le radicalisme religieux dans la région est l'enfant naturel. D'abord, des aventures militaires occidentales en terre arabe. Je crois que la guerre américaine en Irak en 2003 a été catastrophique.
Une tragédie.
Mais en même temps, elle est l'enfant naturel de l'idéologie obscurantiste diffusée sur des chaînes satellitaires arabes et par certains États dotés de ressources importantes et qui ont regardé le monde un peu selon une logique binaire, les bons musulmans et les mauvais musulmans. Les musulmans et les apostats. Et l'État islamique s'est nourri de cette idéologie. Et donc, il faut faire en sorte que des pays ou des organisations arrêtent de diffuser une idéologie qui conduit à une sorte de civilisation.
Voilà, on va se quitter là parce que, Bichar Akader, il y a beaucoup d'autres choses à dire. On se retrouvera de toute façon pour les enjeux internationaux à partir du lundi 31 août. Entre-temps, bien sûr, nos amis auditeurs, n'hésitez pas à réécouter les enjeux internationaux, par exemple, les semaines spécial au besoin, et puis à partir de lundi, donc lundi prochain, les programmes d'été, et jusqu'à 7h, ce sera la fin des nuits de France Culture préparée par Philippe Garbi, et puis les enjeux internationaux en partenariat avec Le Dessous des Cartes, demain sur Arte à 19h30, il s'agira de l'article, la fin du sanctuaire, un très bon été à tous.